1. Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
C'est l'air de la mer, l'air pur, la toux iodée qui nous rentre dans les narines, un peu salée. Et ça va bien, ça fait du bien d'être là.
Le bord de mer à la côte pour ces vacances de février, de quoi redonner un peu de sourire aux hôteliers qui n'avaient pas vu autant de monde depuis longtemps. L'Union européenne va accélérer l'autorisation des vaccins déjà existants et juste modifiés pour lutter contre les variants. Déclaration ce matin de la commissaire européenne à la santé. À l'étranger, l'actualité de la nuit, c'est Donald Trump acquitté après le coup de force contre le Capitole. Une Saint-Valentin en mode Covid. Nous serons avec la chef Amandine Chéniaud qui a concocté un menu pour les amoureux en mode click and collect. L'actualité sportive, premier vrai test pour les 15 de France dans le tournoi des 6 nations après sa promenade de santé en Italie la semaine dernière. Gros morceau cet après-midi face à l'Irlande à 16h. Enfin, on va prendre le large pour saluer les héroïnes du Vendée Globe, invitées exceptionnelles à 12h45. Deux femmes skippers entre terre et mer. Clarisse Kremer, arrivée il y a 10 jours au sable, femme la plus rapide du Vendée depuis sa création. Et Alexia Barrier, qui est encore en plein océan et qui se bat pour préserver les océans. Dialogue vivifiant en perspective.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc après la vague de froid de ces derniers jours, ça commence à se radoucir un peu, c'est ce que nous dira dans quelques minutes Valérie Darmon. Du soleil même à défaut de chaleur sur pas mal de régions aujourd'hui et en bord de mer, des hôteliers qui retrouvent un peu le sourire car les vacanciers sont bien au rendez-vous Marion Gauthier.
Oui, aux pistes enneigées, beaucoup ont préféré les embruns. C'est le cas de ce petit groupe d'amis par exemple, parti au dernier moment du stress de la ville pour goûter les bourrasques de la presqu'île de Quiberon.
D'habitude, on y va plutôt l'été. Dès que je suis arrivé, j'ai posé mes valises et avec les copains, on est allé sur le port.
C'est l'air de la mer, l'air pur, la toux iodée qui nous rentre dans les narines, un peu salée. Et ça va bien, ça fait du bien d'être là.
Ça remplace un peu le ski.
Et ça offre une bouffée d'air frais aux hôteliers du bord de mer, pas habitués à avoir la côte en février. À Deauville, Delphine s'attendait à devoir fermer. Elle restait suspendue aux annonces du gouvernement.
Là, les gens sont tellement heureux de ne pas être confinés. Je pense qu'ils veulent en profiter un maximum. Donc voilà, on a loué 250 chambres en 14 jours. C'est juste incroyable. Franchement, là, aujourd'hui, c'est que du bonheur. Voilà.
Et un peu plus au sud, les Charentes-Maritimes enregistrent 12% de touristes de plus que l'an dernier. 10 à 15% de clients supplémentaires, c'est aussi ce qu'a compté Adrien qui tient un hôtel-restaurant sur la Côte d'Azur.
On a eu un petit coup de feu, on va dire, hier, qui nous a rappelé la belle époque et qui redonne un peu le moral aux troupes.
Alors ça reste une goutte d'eau, précise-t-il. Évidemment, ces vacances ne compensent pas une année 2020 chaotique, mais c'est une parenthèse sans inquiétude pour les commerçants qui peuvent ouvrir.
Voilà, une parenthèse enchantée avec vous, Marion Gauthier, pour ouvrir ce journal. Un grand bol d'air possible, vous le disiez, puisque malgré la progression des variants anglais et sud-africains, le nombre de contaminations reste stable pour l'instant. Pas de nouvelles restrictions en vue, même pour la Moselle. Les élèves seront bien en classe lundi. Comme prévu, donc demain, pas de fermeture de classe, comme le réclamaient certains élus. Et vous allez l'entendre pour le docteur François Braun, chef du service des urgences à l'hôpital de Metz. Par ailleurs, président du syndicat SAMU Urgences de France, garder les écoles ouvertes, c'est une sage décision.
Il faut sortir un petit peu de cette espèce de diktat sanitaire qui voudrait que le sanitaire commande tout. On comprend bien qu'il y a des impératifs sanitaires, mais il y a aussi des impératifs autres. Bien entendu qu'un confinement strict diminue la présence du virus. On l'a vu au printemps dernier, c'est d'ailleurs la seule façon pour que ce soit totalement efficace. Maintenant, il y a un cumul de mesures. Il y a quand même des fermetures des classes dès lors qu'il y a un cas positif qui est contacté. Donc après, la subtilité de tout ça, c'est que le remède ne doit pas être pire que le mal, quoi. Les décisions, pour l'instant, moi, me semblent raisonnable. Il faut renforcer à tout prix, par contre, le dépister, diagnostiquer, tracer, ouais. Isoler. Et ça, c'est vraiment essentiel. Le message doit vraiment porter là-dessus. Et puis, on va réagir en fonction de l'évolution de la situation.
Le docteur François Braun, invité de la matinale de Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Arnaud Fontanel disait hier aussi sur Europe 1, ce sont les variants qui vont dicter notre politique sanitaire. Ce matin, la commissaire européenne à la santé dit que l'Union européenne, qui est en charge, vous le savez, des commandes de vaccins, va accélérer la procédure d'autorisation des vaccins modifiés pour lutter contre ces variants. Nous avons analysé avec l'Agence européenne des médicaments, dit-elle, la procédure. Nous avons dorénavant décidé qu'un vaccin amélioré par un certains fabricants pour lutter contre les nouveaux variants, sur la base d'un vaccin déjà existant et certifié, n'aura plus besoin de passer par toutes les étapes d'autorisation. Ce matin aussi, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le député européen Stéphane Séjourné, conseiller politique d'Emmanuel Macron, a dit que la lenteur de la vaccination en France n'était pas liée au manque de commandes, mais à la difficulté justement des industriels à répondre à cette demande. Stéphane Séjourné, qui est aussi revenu sur la petite phrase de Gérald Darmanin sur la mollesse de Marine Le Pen, qui a divisé cette semaine la majorité, il a laissé entendre qu'il ne fallait pas que la majorité se trompe d'adversaire.
On n'a rien à voir avec le Front National et son idéologie. Je pense que c'est dangereux d'avoir Marine Le Pen au pouvoir et on va combattre Marine Le Pen. Ce que par contre je dis, c'est qu'il faut que les oppositions prennent leurs responsabilités là-dedans. Personne joue aujourd'hui le remplacement, on va dire, dans le jeu du deuxième tour de Marine Le Pen. Personne. Donc j'invite Olivier Faure, j'invite Xavier Bertrand, parce qu'ils ont double discours. Je regarde par exemple Xavier Bertrand dans Les Hauts-de-France, il demande un front républicain pour Les Hauts-de-France, mais par contre il attaque uniquement Emmanuel Macron sur le volet national. Bah, participons aussi à l'attaque et à la bataille politique contre le Front National.
Stéphane Séjourné, président du groupe Renaissance au Parlement européen, conseiller politique d'Emmanuel Macron, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À l'étranger, l'actualité de la nuit, c'est Donald Trump acquitté après le coup de force contre le Capitole. Le verdict est donc bien tombé hier soir dans le procès en destitution de l'ancien président des États-Unis, Alexis Guilleux.
Oui, la majorité des deux tiers n'a pas été atteinte. 57 voix pour, 43 contre. Ce résultat n'est pas une surprise. Et Donald Trump devient le premier président acquitté deux fois par le Sénat. Dans un communiqué, il a dénoncé une chasse aux sorcières et promet de continuer l'aventure pour la grandeur de l'Amérique. Il a remercié ses avocats qui, au cours de ces 5 jours de procès, ont rejeté en bloc toutes les accusations portées contre l'ancien président.
Peu importe la quantité d'images horribles que nous avons vues de la part des émeutiers et l'émotion qui a été injectée dans ce procès, cela ne change rien au fait que M. Trump est vraiment innocent des charges qui pèsent contre lui.
Dans leur plaidoirie finale, les démocrates se sont eux inquiétés du risque d'un acquittement. Ce qu'il s'est passé le 6 janvier peut se reproduire. La violence que nous avons vue en ce jour terrible n'est peut-être que le début. 7 sénateurs républicains ont tout de même voté aux côtés des démocrates, c'est inédit. Mais ce procès a surtout révélé l'emprise conservée par Donald Trump sur son parti 3 semaines après son départ de la Maison-Blanche.
Alexis Guilleux, depuis Washington pour Europe 1, malgré cet acquittement pour le président Joe Biden, le fond de l'accusation n'est pas contesté. Il juge que cette attaque contre le Capitole montre que la démocratie reste fragile.
Fabienne Lemoelle vous informe sur Europe 1.
14 février, Saint-Valentin et une Saint-Valentin en mode Covid que nous allons vivre cette année. Mais vous allez l'entendre, ça n'empêche pas les amoureux qu'a rencontré Caroline Baudry d'avoir plein d'idées.
On va passer une nuit dans un hôtel pour passer un bon moment parce que c'est vrai qu'entre les cinémas, les restaurants fermés, on n'a pas l'occasion de faire autre chose à côté, quoi.
Avec la période du Covid, le cuistot, ça va être moi.
On va commander à emporter. Hein. On s'est quand même fait des petits cadeaux. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai fait un. Histoire de changer un peu du cancan un peu quotidien.
Je sais que mon école organisait des choses où on pouvait envoyer des fleurs aux gens, mais on n'a pas beaucoup de cours en présentiel, on va dire. C'est dur pour le moment de faire des rencontres.
Ça va être différent, mais ce qui se passe, ça remet en question le monde dans lequel on est. Là, c'est le moment de se rappeler qu'il ne faut pas abîmer l'amour qu'on a pour les siens.
Voilà, et faute de pouvoir aller au restaurant en amoureux, pourquoi ne pas s'offrir un repas de chef à la maison ? Bonjour Amandine Chéniaud.
Bonjour, bonjour.
Chef du restaurant Pouliche dans le 10e arrondissement à Paris, vous avez repris en mode click and collect. Qu'est-ce que vous avez prévu comme menu de la Saint-Valentin pour savourer un petit peu avec vous ce midi ?
Exactement, on a un menu un peu tout inclus avec un petit fontainebleau de chou-fleur au caviar de France, on a un bouillon de gibier avec une ravioles de langoustine, une jolie tourte à partager et puis un petit dessert autour de la noix de coco et des fruits exotiques.
J'imagine que ça met du baume au cœur après ces mois de fermeture de voir que les clients sont au rendez-vous parce que je crois que votre menu de la Saint-Valentin s'est envolé comme des petits pains si j'ose dire.
Ouais, exactement. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que les habitants du quartier et même de Paris sont au rendez-vous. On a mis en vente effectivement dès le début du mois à peu près 180 menus qui sont tous partis. Et puis là, on en a remis 15 aujourd'hui, un peu en last minute parce que l'équipe était à fond. Et voilà. Donc, mais après, on reste présent de toute façon avec notre click and collect normal, les tourtes à cuire à la maison, etc., etc.
Juste une dernière question, ça veut dire le click and collect, des choses faciles à faire réchauffer justement pour garder cette saveur que vous cuisinez?
Exactement, et pour les tourtes à cuire à la maison, on a fait un petit mode d'emploi avec la façon de la cuire, la laisser reposer, comment la présenter, comment la savourer à son maximum.
Merci beaucoup Amandine Chéniaud, chef du restaurant Pouliche dans le 10e arrondissement à Paris. Et j'imagine que ce click and collect, il est valable le reste de la semaine et pas que pour le menu de la Saint-Valentin. Bonne continuation à vous, merci.
Merci, à bientôt, au revoir.
L'actualité sportive, premier vrai test pour le 15 de France dans le tournoi des Six Nations après la promenade de santé des Bleus face à l'Italie à Rome la semaine dernière. Gros morceau cet après-midi face à l'Irlande avec un double enjeu, Simon Rubin.
Cet après-midi, les Bleus ont un premier grand rendez-vous pour la victoire finale face à l'Irlande, à Dublin, où l'équipe de France n'a plus gagné depuis 2011. Match d'autant plus intéressant pour le 15 de France qu'en cas de victoire, les Bleus élimineraient les Irlandais de la course au titre, l'Irlande ayant déjà perdu un match. Objectif double donc, bien se placer au classement et écarter un rival direct. Mais attention, prévient le centre Gaël Ficou, l'Irlande, en bête blessée, est encore plus dangereuse.
C'est à l'extérieur, c'est un gros match, ils ont perdu la semaine dernière, ils se sont renversés en char, c'est vrai que le dernier match aussi on a gagné, donc voilà, on sait qu'ils vont nous attendre. C'est une des meilleures équipes européennes depuis 10 ans, et tant mieux pour nous parce qu'on adore relever des défis comme ça. On va être attendu là-bas et ça va être un gros défi pour nous, et c'est pour ça qu'on joue rugby, donc c'est plaisant et on a hâte d'y être.
Des Irlandais revanchards, voilà qui ravit les Bleus. Et c'est aussi ça qui a changé dans le 15 de France depuis quelques mois. Désormais, les joueurs courent vers la difficulté, ils adorent les défis, ils n'ont plus peur. Et même au contraire, ils ont envie d'en découdre dans l'adversité, conscients que cela ne rendra leur victoire que plus belle.
Coup d'envoi à 16h de cette Irlande-France. En football, le PSG privé de Neymar s'est contenté d'une petite victoire 2-1 face à Nice. Quant à Lyon, il a perdu 2-1 à Montpellier. Et puis un nouveau président à la tête de la Fédération française de tennis, l'ancien joueur Gilles Moreton, ancien finaliste de la Coupe Davis en 82 avec Yannick Noah. Parmi ses objectifs, ouvrir plus encore Roland-Garros aux jeunes licenciés.
Il faut que tous les enfants rêvent d'aller à Roland-Garros, il faut qu'on remette toutes les compétitions à Roland-Garros. Moi, j'ai vécu, c'est ma maison, j'ai habité Roland-Garros. Avec Yannick Noah, on avait 4 chambres à l'époque où il y avait une gardienne qui s'occupait de nous, et c'est ma maison. Et il faut que Roland-Garros redevienne la maison de tous les pratiquants de tennis en France.
Voilà, et la maison peut-être du futur vainqueur, celui qui détrônera enfin Yannick Noah, dernier vainqueur de Roland-Garros français en 1983. Je vous rappelle que dans quelques minutes, nous serons avec deux femmes skippers du Vendée Globe entre terre et mer, Clarisse Kremer, arrivée il y a 10 jours, et Alexia Barrier, qui est encore en plein océan Atlantique. Et puis, je suis sûre que vous avez déjà collé votre oreille à un coquillage pour entendre la mer, mais là, je vais vous parler d'un coquillage qui a plus de 18 000 ans. Il vient de livrer son secret. Et comme va nous l'expliquer Romain Oquet, c'est un instrument de musique.
Un son grave venu de la nuit des temps. Ces notes, ce sont celles d'un coquillage préhistorique. Depuis 1931, année de sa découverte, il dormait dans les réserves d'un musée de Toulouse. Les chercheurs pensent d'abord à un simple récipient. 90 ans plus tard, lors d'un inventaire, Carole Fritz et son équipe percent presque par hasard les secrets du coquillage.
Mon collègue, tout d'un coup, s'est mis à souffler dedans. Et là, on entend le son, et ça, c'était très émouvant, parce que depuis 18 000 ans, personne n'avait joué de cette manière-là. Et moi, j'étais très, très étonnée. Pour moi, je me suis dit, ça peut être qu'un instrument de musique.
Les analyses confirment, pour émettre ce son, le coquillage d'une trentaine de centimètres a bien été taillé, scié même par l'homme. Un instrument puissant, équivalent au bruit d'une rame de métro.
On peut peut-être imaginer que ça puisse reproduire certains sons de grands herbivores, appeler des gens pour des cérémonies et avoir un lien entre l'image et le son, la réverbération de cet instrument dans la grotte.
Pour le savoir, les chercheurs vont fabriquer une copie du fragile instrument pour un essai grandeur nature dans la grotte où il a résonné pour la première fois il y a 18 000 ans.
Assez saisissant ce son de coquillage, je dois dire. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Et bonne nouvelle, Valérie Darmon, ça ne glisse plus et l'heure est au redoux.
Effectivement, Fabienne, plus de verglas en Bretagne, ni même en Normandie. Le dégel s'installe sur la moitié nord. Restent juste quelques rares averses sur les côtes normandes et bretonnes, des Pyrénées aux frontières de l'Est, en passant par l'Auvergne, par Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre, le Val-de-Loire, le bassin parisien, les Pays de la Loire. Vous passez la journée sous un ciel voilé et dans le calme, voire très ensoleillé par endroits. C'est sur le golfe du Lion jusqu'aux Bouches-du-Rhône que c'est gris. Les grisailles sont ramenées par le vent marin, des ondées ou des flocons à très basse altitude jusque dans l'arrière-pays varois. En Midi-Pyrénées, le vent d'OTAN se lève et souffle à 80 km/h en rafale. Au nord de Toulouse, sur le sud de l'Aveyron et dans le Tarn. Côté température, c'est toujours très contrasté, avec 15 à 20 sur le sud de l'Aquitaine, où l'ambiance a un goût de printemps, contre 0 à 5 au nord de la Seine, où le froid résiste, mais le redoux s'annonce pour demain.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Et on va prendre un grand bol d'air dans un instant et une belle leçon de vie avec deux navigatrices du Vendée Globe qui nous ont fait rêver. Une à terre, Clarisse Kremer, femme la plus rapide de la course, l'autre toujours en mer. Alexia Barrier qui lutte pour la préservation des océans. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer.
Et on va s'offrir maintenant un grand bol d'air avec les héroïnes du Vendée Globe, car il n'y avait jamais eu autant de femmes à s'élancer pour ce tour du monde en solitaire et sans assistance. 6 au départ, plusieurs encore en mer, comme Alexia Barrier, qu'on va retrouver. Magie de la technique au cœur de l'océan Atlantique, au large du Brésil dans un instant. Et déjà à terre, celle qui s'est même offert le titre de navigatrice la plus rapide de l'histoire de cette course en bouclant son tour du monde en 87 jours. Clarisse Kremer, bonjour.
Bonjour.
Et encore bravo.
Merci beaucoup.
Plus de 10 jours maintenant que vous avez touché terre après 3 mois seule en mer. Ça y est, vous avez vraiment atterri, vos jambes vous soutiennent?
C'est vrai qu'on a un petit peu les jambes flageolantes quand on met le pied à terre pour la première fois après 3 mois sur un bateau en solitaire. Mais je pense que je commence doucement à atterrir, mais pas tout à fait. Je sens qu'il y a encore une petite partie de mon esprit qui est encore un peu en lien avec la mer, mais ça va venir doucement, petit à petit.
Vous avez justement beaucoup partagé sur les réseaux sociaux avec des vidéos, notamment pour nous dire, et c'est pas anodin que vous aviez passé 2 mois sans vous laver, ça montre le fait qu'il faut vraiment être sur le pied de guerre tout le temps.
Ouais, alors c'était pas forcément très malin de ma part, ça montre aussi que avec le manque d'expérience, peut-être que voilà, j'étais tellement concentrée sur mon bateau, sur la météo, tout ça, que je me suis peut-être un petit peu laissée aller, peut-être pas tout à fait assez pris soin de moi. Mais oui, voilà, on nous demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées et est-ce que tu t'ennuies pas? Mais en fait, c'est vrai qu'on s'ennuie pas un seul instant et on trouve toujours quelque chose à faire. À tel point que dans les mers du Sud, quand il faisait froid, je me suis pas vraiment lavée, je me changeais de temps en temps, mais quand même assez rarement. C'est un moment assez particulier.
Vous nous disiez que vous aviez un peu l'esprit encore en mer. Est-ce que vous vous êtes fait peur? Je rappelle que vous avez à peine 31 ans, que c'était votre premier tour du monde sans assistance et sans escale.
Oui, bah c'est sûr que c'est pas une aventure facile. Hein. Il y a des moments où on a vraiment cette sensation d'être tout petit au milieu des éléments, surtout quand on est dans les mers du Sud, par exemple au milieu des Pacifiques, et on sait que voilà, au moindre problème, on peut compter que sur soi. Et que voilà, il vaut mieux pas qu'il nous arrive quelque chose. Donc c'est une forme de peur, et en même temps on n'y pense pas toute la journée, on est très concentré, on est dans l'action, et puis on est aussi beaucoup soutenu par les personnes à terre. Moi j'ai le Team Banque Populaire que j'avais en direct par WhatsApp en cas de pépin, même s'il n'y a pas vraiment d'assistance, enfin il y a aucune assistance physique et aucune aide par rapport à la météo et tout ça. En cas de problème technique, on a le droit d'avoir une espèce de consulting à distance, et ça c'est quand même une aide très précieuse, mais c'est sûr qu'on est quand même un peu livré à nous-mêmes.
Et qu'est-ce que ça vous a appris de vous?
Alors ça, je pourrais y répondre pendant de nombreuses heures. C'est vrai qu'il y a un petit côté retraite spirituelle quand on passe 3 mois tout seul. J'ai vraiment beaucoup plus de confiance en moi maintenant qu'il y a 3 mois. On se sent un peu pousser des ailes. En fait, c'est pas tellement qu'on repousse ses limites, c'est qu'on les découvre petit à petit et on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Et on découvre aussi la force du mental. Je pense notamment à des moments où j'ai dû faire des réparations que j'aurais jamais imaginé être capable de faire.
Quand vous êtes montée au mât, c'est ça?
Voilà, par exemple, je suis montée au mât pour réparer une voile, et c'est vrai que moi j'ai le vertige, et c'est quelque chose qui me demandait beaucoup beaucoup de volonté, et j'ai dû y monter 3 fois d'affilée dans la même après-midi, et donc c'est énormément d'énergie. Pendant 3 jours après, j'arrivais à peine à marcher parce que je me suis blessée aux jambes en montant au mât, et alors que quand j'étais en haut de mon mât, j'y pensais absolument pas, j'étais simplement concentrée sur la réparation que j'étais en train de mener, et on se rend compte des pouvoirs presque magiques du mental. Et voilà, c'est des choses, à mon avis, qui après servent dans la vie de tous les jours pour se sentir plus forte. Et ça, c'est très précieux.
Et vous dites, j'ai le vertige, ça paraît incroyable, parce que à combien de mètres, qu'on mesure, hein, parce que vous étiez ?
Le haut du mât est à peu près à 30 mètres de haut. Ah. Après, là, la réparation, elle était à un peu plus d'une vingtaine de mètres. Mais c'est surtout qu'en fait, on est sur une espèce de tige qui bouge. Donc, j'ai visiblement pas un vertige maladif, hein, sinon j'aurais pas réussi à faire ça. Mais c'est quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et on ne surprendra jamais à aller faire de l'escalade pour le plaisir.
Vous dites vertige. Et moi, ce qui m'a surpris, ça paraît incroyable. Vous avez le mal de mer.
Aussi. Alors ça, c'est marrant parce que ça surprend beaucoup de monde. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une petite... je ne veux pas dire une omerta, c'est un bien grand mot, mais les marins en parlent très peu. Je pense que c'est une forme de fierté, mais c'est très courant. Je ne veux pas citer de grands noms, mais c'est aussi des très grands noms. Parce qu'en fait, la plupart des êtres humains ont le mal de mer. Il y a peu de skippers qui ont la chance de ne jamais connaître le mal de mer. Je pense que c'est à peine un skipper sur 10. Et c'est quelque chose qu'on a souvent dans les premières journées, en tout cas les premières heures quand on est sur l'eau. En fait, à chaque nouveau bateau, il faut s'habituer à ces mouvements. Et puis en plus, avec la peur, l'inquiétude de ne pas être à la hauteur, forcément, ça rajoute un aspect psychologique. Et en fait, ça passe, ouais, ça passe. Plus on apprend, plus on navigue, moins on est malade. Et moi, en particulier, en solitaire, je suis beaucoup, beaucoup moins malade qu'en équipage. Et voilà, on se découvre des ressources et ça passe. Et puis là, sur le Vendée Globe, c'est un problème qui dure 24 heures. Donc, à l'échelle de 87 jours, c'est pas véritablement un problème.
Alors, vous avez passé la ligne d'arrivée. Il y en a une qui est encore en mer qu'on va rejoindre. Alexia Barrier, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous parler, Clarisse Kremer, si vous voulez demander des nouvelles à Alexia.
Coucou Alexia, je suis hyper contente de t'entendre, c'est trop sympa. Comment tu t'en sors? Le moral est bon, l'énergie est au top?
Écoute, ça va Clarisse, j'ai passé l'équateur la nuit dernière, je suis dans le poteau noir, dans les grains. Et là justement, il y a un grain qui vient de m'arriver dessus, donc c'est un petit peu sport depuis 24 heures, mais je tiens le bon bout, donc ça va. J'ai le moral, le bateau va bien. Et j'ai jamais été aussi proche de l'arrivée. Et je voulais te dire bravo pour ta course. T'as super bien navigué, c'est canon.
Ouais, écoute, merci beaucoup. Je suis très touchée. Ça fait plaisir de l'entendre de vive voix de ta part. Mais ouais, bravo aussi parce qu'on sait très bien toutes les deux qu'on n'avait pas le même projet et pas les mêmes armes en termes de bateau au départ. Et tu t'en sors à merveille. Donc c'est top. Et je compatis pour le poteau noir parce que c'est vrai que c'est pas facile de répondre aux interviews quand on est entre deux grains et qu'on se demande à quelle sauce on va être mangé dans les minutes qui arrivent.
C'est vrai, mais écoute, ça va, du coup, je suis bien entraînée. Après un tour du monde, c'est pas un vieux nuage gris qui va m'embêter. Et c'est quand même une chance extraordinaire qu'on a de faire le tour du monde.
C'est vrai qu'on se sent hyper privilégié et c'est une chance de dingue. Et toi, t'en profites encore plus parce que du coup, tu passes plus de temps sur l'eau, tu vois, donc t'as tout compris.
Et c'est un vrai bonheur de permettre cet échange entre vous, Clarisse Kremer et Alexia Barrier, de voir votre passion hein, par rapport à ce Vendée Globe. Merci vraiment de la partager avec nous. Alexia Barrier, vous espérez quand une arrivée au Sable d'Olonne?
Alors, j'arrive le 26 à midi. J'ai décidé ça il y a 2 semaines. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Je croise les doigts.
Parce que je rappelle effectivement que vous êtes à bord de l'ancien bateau de Catherine Chabot, rebaptisé For My Planet. Je dis ça parce que votre course, c'est aussi pour nous montrer dans quel état sont ces océans, justement, après ces 3 mois. C'est quoi votre constat? Cet océan, il va bien? Il est un peu malade?
Alors, à bord de TSE For My Planet, j'ai des capteurs, je prends des données pour les scientifiques. Et non, l'océan ne va pas bien. Je suis désolée, c'est pas une bonne nouvelle. On avait vraiment des graves problèmes de pollution à cause du plastique. Et ça, ce qui est super, c'est que chacune d'entre nous, on peut agir au quotidien pour réduire la quantité de plastique qu'on utilise, qui est absolument partout dans notre vie au quotidien. Il y a aussi l'acidification de l'océan qui est un énorme problème. Donc, à cause de la quantité qu'absorbe l'océan de carbone, et un énorme problème de surpêche aussi, de la pêche industrielle. Donc voilà, ça c'est les mauvaises nouvelles de l'océan. Par contre, les bonnes nouvelles, c'est qu'on peut agir, et il faut agir aujourd'hui, sinon dans 30 ans, il n'y aura plus que des méduses et du plastique dans l'eau, et ce sera bien triste pour nos enfants que de subir ces ravages de la pollution due à l'impact de l'homme. Après, il y a quand même une belle biodiversité, on a pu le voir, je ne sais pas si Clarisse a vu pas mal d'animaux, mais beaucoup d'oiseaux, beaucoup de mammifères marins. Je compte sur chacune et chacun de vous pour devenir des héros à partir d'aujourd'hui et de penser un peu plus à l'océan.
Bah, merci beaucoup, message bien reçu. On vous souhaite bonne route. Clarisse Kremer, un dernier mot peut-être. Effectivement, Alexia Barrier.
Alexia, je suis à fond derrière toi. J'ai hâte de venir t'accueillir au Sable d'Olonne pour ton arrivée. Et puis courage, parce que c'est vrai que plus on est proche de la ligne d'arrivée, plus elle paraît loin. Et enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Plus j'étais stressée à l'idée qu'il se passe quelque chose qui m'empêche de passer la ligne.
Merci beaucoup, Alexia Barrier. Merci. On vous laisse à votre bateau. Et puis, bonne navigation.
Merci infiniment.
Salut Alexia, courage.
Ouais, merci beaucoup, au revoir.
Clarisse Kremer, je reviens au fait qu'il y avait 6 femmes engagées. Vous avez battu donc ce record. Est-ce que être une femme sur le Vendée Globe, c'est quelque chose de particulier?
Alors oui et non, parce que forcément, effectivement, il y a une dimension physique. On peut pas se le cacher. On n'a pas la même force physique qu'un homme, donc on peut pas avoir la même puissance. Et en même temps, dans la course au large, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de devenir skipper du Vendée Globe. Et il y a beaucoup de parcours différents, si on regarde tous les marins qui étaient sur la ligne des départs. Enfin voilà, moi j'évite de faire trop de généralités entre les femmes coureuses, parce que quand on est en mer, on se considère voilà avant tout comme des marins. On se dit pas devant nous c'est un homme ou une femme, et c'est ça qui fait pour moi aussi la richesse de la course au large. Après par contre, si ça peut permettre de montrer aux femmes que on a aussi nos places dans des milieux d'hommes et que on peut réussir à composer avec nos faiblesses, alors ça c'est bien.
Un dernier mot, Clarisse Kremer, vous comprenez pourquoi vous nous avez tous fait rêver pendant ces 3 mois?
Je commence à en prendre la mesure là depuis que j'ai mis le pied à terre. Ce qui me touche le plus, c'est quand on entend parler de gens qui sont pas forcément proches de la mer et qui connaissent rien de particulier au bateau, mais qui ont quand même suivi le Vendée Globe. Ça c'est top, parce que finalement c'est quand même une aventure assez solitaire, donc ça lui donne du sens et ça nous donne envie de continuer, donc ça c'est génial.
Merci infiniment, Clarisse Kremer, et merci aussi donc à Alexia Barrier. Merci à toutes les deux de nous avoir fait partager cette aventure et cette passion. Et on vous le dit, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Encore un grand merci. Et je pense que je partage l'avis de tous les auditeurs qui viennent de vous entendre. Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Et vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h en ouvrant les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Hommage dans les carnets cette semaine au scénariste, écrivain Jean-Claude Carrière qui nous a quittés cette semaine avec un grand témoin, le metteur en scène Peter Brook.